France Inter, le 6-9 du week-end, Éric Delvaux.
Bonjour Laurence Nardon.
Bonjour.
Directrice du programme Amérique du Nord de l'IFRI, l'Institut français des relations internationales. Pas facile d'y voir clair ce matin sur les derniers coups de menton réciproques entre les États-Unis et l'Iran, à commencer par ces cyberattaques que Donald Trump aurait lancées contre les systèmes de lance-missiles iraniens. C'est ce qu'affirme le Washington Post, tandis qu'un autre média, Yahoo News, affirme qu'une autre attaque informatique américaine a visé un système de surveillance des navires dans le détroit d'Ormuz. En fait, les deux pays sont déjà en guerre, non ?
Heureusement, pas encore complètement, puisqu'il n'y a pas une guerre avec des soldats et des affrontements véritablement militaires.
Sauf que cette cyberattaque, elle est menée par le US Cybercom, c'est-à-dire un organisme qui appartient au ministère de la Défense des États-Unis.
Oui, absolument. En fait, ce qui se passe ces jours-ci, c'est que comme Trump n'a pas voulu aller à la vraie guerre, entre guillemets, jeudi dernier, il s'est ravisé manifestement au dernier moment. Il faut qu'il explore d'autres options pour montrer la réaction des États-Unis à la destruction de leurs drones. Et donc, il a annoncé de nouvelles sanctions qui entreront en œuvre lundi.
Demain, oui.
Et en attendant, il explore effectivement, enfin il explore ou il met en œuvre, selon le Washington Post, des attaques informatiques. Ce que les États-Unis ont déjà fait dans le passé, finalement, les pays comme la Russie ou la Chine ou Israël, etc., sont depuis un certain nombre d'années en train d'expérimenter la guerre cyber,
oui.
Sans aucune perspective d'un accord international pour l'instant, comme on a eu dans le temps sur, enfin, et encore aujourd'hui sur les armements nucléaires,
et en
par
fait,
exemple.
Cette guerre américaine contre l'Iran, elle a commencé aussi avec, de façon économique, avec le blocus. C'est déjà un outil de guerre, ce blocus économique.
Ah bah oui, absolument. Les sanctions et les embargos sont destinés à faire pression sur l'Iran. Alors, soit pour l'amener à négocier ou à mieux respecter ses engagements, puisque l'administration Trump prétend que l'Iran n'a pas respecté ses engagements dans l'accord nucléaire de juillet 2015, le JCPOA, ou bien même pour amener l'Iran à changer de régime. Ça, c'est le rêve fou de certains néoconservateurs de Washington.
Les faucons de la Maison-Blanche. Dans cette poudrière proche-orientale, à force de donner des coups de menton comme des coups de boutoir, y a-t-il un risque finalement d'un conflit généralisé dans la région ?
Oui, je pense qu'on est sur le fil du rasoir. La situation ces jours-ci me rappelle un petit peu, enfin, je n'étais pas née, mais la crise de Cuba. Sauf qu'évidemment, on a Trump et on n'a pas Kennedy. C'est un petit peu le problème. Puisque le grand risque aujourd'hui, c'est que la Maison-Blanche n'a pas de ligne claire sur ce qu'il faut faire en Iran. On sait que Trump déteste le régime iranien pour plusieurs raisons.
On va en parler tout à l'heure.
On va pas y revenir.
Si, on y reviendra tout à l'heure.
Ah, pardon.
Je vous en prie, non mais...
Donc, il déteste l'Iran, mais en même temps, Trump n'est pas un interventionniste. Il a fait campagne sur le retrait, sur le fait que les États-Unis allaient s'occuper d'eux-mêmes. Il veut pas ouvrir un nouveau front militaire, vraiment surtout pas. Et pourtant, autour de lui, il a des conseillers qui prônent l'intervention, et notamment John Bolton, qui est son conseiller pour la sécurité nationale, Mike Pompeo, qui est le secrétaire d'État, et qui sont, eux, des va-t-en-guerre absolument... déchaînés, j'ai envie de dire.
On les appelle les faucons de la Maison-Blanche, c'est pas pour rien.
Absolument, et Bolton, par exemple, qui a été instrumental dans le déclenchement de la guerre en Irak en 2003, très rapidement après, vers 2007-2009, s'est mis à militer très activement, à coups d'opettes dans le New York Times, pour une intervention en Iran, afin de détruire... Alors, donc son plan, c'était que les États-Unis devaient frapper l'Iran pour détruire ses installations nucléaires. Donc, il est, depuis plus de 10 ans, en train de réclamer une intervention des États-Unis en Iran, et il est peut-être en train d'y arriver, puisque, comme je vous dis, je pense que... On ne sait pas vraiment trop ce qui peut se déclencher dans les jours à venir.
Mais sur cette séquence d'opérations militaires américaines stoppées à la dernière minute, ça montre aussi que Trump, donc d'abord, n'a pas suivi les injonctions des faucons de la Maison-Blanche. Vous les citiez, John Bolton ou Mike Pompeo, le secrétaire d'État, ou encore Gina Haspel, la directrice de la CIA. En fait, Trump est en train de nous montrer aussi qu'il aurait finalement un sens diplomatique plus aiguisé que ce dont il veut bien montrer ce qu'il veut bien montrer d'habitude.
Oui, dans la séquence actuelle, Trump est celui qui réfrène les appétits guerriers de certains de ses conseillers. Donc, il faut quand même le noter.
Pourquoi le fait-il ?
Eh bien, parce que, comme je vous le dis...
Il a peur de perdre des hommes aussi, non? Il n'y a pas eu ça
mais absolument, il ne veut pas que les États-Unis s'occupent du reste du monde. Et il ne veut surtout pas ouvrir un nouveau front militaire. Et donc, il ne veut pas envoyer des hommes parce que il ne veut pas que les soldats américains soient victimes. Il a également dit que les estimations des frappes américaines prévues auraient fait environ 150 morts parmi les civils, ou enfin en tout cas les Iraniens, civils ou non, et il a dit, il a présenté ce chiffre comme la raison de son refus.
Cela dit, est-ce que c'était de la communication? Est-ce qu'il avait anticipé cette posture de j'y vais, puis je n'y vais pas? Ou est-ce que ça traduit plutôt le caractère, une nouvelle fois, d'un homme impulsif, pris dans ses contradictions à la tête de la principale puissance armée du monde?
Je crois que c'est plutôt cette seconde solution. Et en même temps, peut-être que la vraie raison de son refus, c'est que si jamais une guerre se déclenchait, des opérations militaires se déclenchaient véritablement dans la région, l'Iran est un adversaire formidable. C'est un pays qui est armé, avec une population extrêmement éduquée. C'est pas l'Afghanistan. Mmh. Et du coup, si ces opérations venaient à se déclencher, je pense que pour Israël, la situation deviendrait quand même extrêmement problématique, parce que Israël pourrait craindre des frappes de missiles iraniens, et peut-être qu'un coup de fil de Benjamin Netanyahou au président Trump a joué, je ne sais pas.
Que vaut la théorie selon laquelle Donald Trump aimerait conforter Israël une fois pour toutes dans la région, lui donner en quelque sorte les clés du Proche-Orient pour mieux se désengager de la région, désengager les troupes américaines de la région, et donc mieux se concentrer sur un autre espace, une autre stratégie offensive face à la Chine?
Ah, alors là, il faut revenir en arrière, puisqu'en fait, ce pivot vers l'Asie de la diplomatie américaine et des forces armées américaines, en fait, c'était un projet d'Obama au départ. Hein. C'était l'idée que les États-Unis allaient se dégager du Proche-Orient compliqué, coûteux
et qui n'en finit pas,
pour se tourner au XXIe siècle vers le nouveau centre du monde, c'est-à-dire l'Asie, pour faire plus de diplomatie et mieux encadrer la Chine, dont Obama, on savait qu'il y avait quand même un certain nombre de problèmes géopolitiques et économiques qui se posaient. Maintenant, sur le Moyen-Orient, la stratégie d'Obama avait consisté à vouloir remettre l'Iran dans le jeu diplomatique régional face aux ennemis de l'Iran aujourd'hui, qui sont Israël, vous le disiez, mais aussi l'Arabie Saoudite. Aujourd'hui, ce qui est quand même très frappant au Moyen-Orient, c'est cette alliance de fait entre l'Arabie Saoudite et Israël, contre leur ennemi commun qui est l'Iran chiite. Et contrairement à l'administration Obama, Trump aujourd'hui est totalement dans la main des dirigeants saoudiens et israéliens, et c'est l'une des raisons pour lesquelles il déteste l'Iran, c'est-à-dire qu'il veut jouer le jeu des deux ennemis de l'Iran dans la région.
Alors, adversaire redoutable, hein, vous le disiez, que l'Iran, je ne sais pas ce qu'on peut dire de la Corée, mais apparemment, qu'est-ce qui se passe là? Corée du Nord, c'est le grand amour entre Donald Trump et Kim Jong-un. Ils s'écrivent, c'est Kim Jong-un apparemment qui a commencé, qui a écrit une lettre que Trump a qualifiée de magnifique, à laquelle il a répondu.
C'est la lune de miel entre la Corée du Nord et les États-Unis.
Oui, il ne faut pas s'attendre à grand-chose. Là, ce qu'on voit effectivement, c'est ce jeu diplomatique d'un Trump qui... Alors, une fois de plus, contrairement à ses conseillers actuels qui sont faucons, comme vous le disiez, c'est-à-dire très très agressifs, Trump se présente là encore comme le meilleur négociateur du monde, qui va arriver à des deals dans tous les sens, et donc qui met en scène une amitié avec Kim Jong-un, dont il espère des développements. Mais... le développement qu'on espère, c'est une dénucléarisation de la Corée du Nord.
Ça, il l'obtiendra pas.
Mais ça, il l'obtiendra pas, parce que la Corée du Nord est un pays qui se sent entouré d'ennemis, peut-être à raison d'ailleurs, et qui voit son assurance vie dans le développement de ses capacités missiles et nucléaires. Donc jamais un dirigeant normal, sensé, entre guillemets. Enfin, je pense d'ailleurs que Kim Jong-un est très rationnel en réalité, hein, comme dirigeant, ne renoncerait à cette assurance-vie. Finalement, la position nucléaire de la Corée du Nord est un petit peu similaire à celle de la France. C'est-à-dire que elle se voit comme une puissance moyenne, en tout cas pas une grande puissance, mais à laquelle la possession d'armes nucléaires apporte énormément. C'est-à-dire que ça le fait basculer au statut de puissance invulnérable. L'invulnérabilité du nucléaire.
On retourne à ce conflit armé potentiel avec l'Iran. S'il y avait des morts américains, ce serait tout de même plutôt mal accepté par l'opinion américaine au moment où Donald Trump vient de se déclarer candidat à sa propre succession. Est-ce que ça peut être un garde-fou à la stratégie belliqueuse de l'administration américaine plus que de Trump ?
Alors, de l'administration américaine actuelle, à son plus haut niveau, je ne crois pas, puisque comme on le disait tout à l'heure...
Les faucons restent là et bien là.
Oui, et pour eux, des morts de soldats n'ont pas été un frein dans le passé au déclenchement d'opérations extrêmement hasardeuses, comme l'Irak ou la poursuite en Afghanistan, etc. Et du coup, je pense que seul Trump et son électorat... s'attarde sur cette question.
À propos de la réélection maintenant de Donald Trump, les principaux marqueurs sont au vert, hein, avec de bonnes opinions dans les sondages, avec un taux de chômage à 3,6%. On n'en a pas vu un taux de chômage comme ça depuis près de 50 ans aux États-Unis. Une économie américaine dont rêverait tout chef d'État étranger. Dans ce tableau apparemment idyllique, y a-t-il un revers à cette médaille ?
Oui, moi je pense aujourd'hui que Trump a de très bonnes chances d'être élu. Enfin, il a des avantages, vous les citiez, notamment économiques. Mais il y a quand même, je pense, sur la base de ce qu'on observe aujourd'hui, un certain nombre de failles dans son dispositif. Et je ne suis pas complètement sûre qu'il puisse être réélu. Je pense que les probabilités sont pas immenses.
Alors, avant de parler de la réélection, les failles. Où sont les failles ? Dans le déficit budgétaire américain, par exemple ?
Oui, absolument, parce que l'économie va très bien, vous le disiez, notamment donc chômage, croissance et surtout la remontée des bas salaires, qui est quelque chose que son électorat attendait depuis 2008 et ça se produit enfin. Et ça, c'est excellent pour lui.
Mais le coût à payer, c'est le déficit budgétaire.
Il y a un énorme déficit budgétaire qui s'accumule. Il y a pour le mois de février 2019. Uniquement, le pays a connu un aggravement de son déficit budgétaire de 234 milliards. Et l'année, 234 milliards de déficit budgétaire pour février. Et en 2020, le déficit total, donc cumulé du pays, devrait atteindre 1000 milliards.
Et ça, c'est directement lié à la politique économique de Donald Trump et sa relance keynésienne ?
Mettons qu'il n'est pas arrivé avec une situation tout à fait propre, mais il l'a aggravée avec sa réforme fiscale de décembre 2017 qui a abouti à une aggravation de ce déficit, effectivement.
Alors oui,
il y avait d'autres failles, mais plutôt sur le plan politique. Donc je ne sais pas si.
Allons-y. Alors, les failles politiques.
Vous disiez tout à l'heure qu'il avait beaucoup d'opinions positives. En fait, l'approbation du président, elle est à 40-45% depuis 2 ans. Ça bouge pas, ça descend pas, ça monte pas. Et 40-45%, donc c'est sa base à la fois populiste, c'est-à-dire les classes moyennes blanches peu ou pas diplômées, d'une part, et les conservateurs chrétiens très réac sur les questions de morale, d'autre part. Donc ça, c'est sa base. Et ça fait 40 ou 45% de l'opinion publique dans les sondages. Mais vous observerez que ça fait pas 50%, donc il n'a pas une majorité suffisante.
Et les femmes, quel peut être le poids du vote des femmes ? C'était 42% en 2016. Là, est-ce que, par sa politique d'abord, aussi par ses frasques, enfin, un certain nombre de choses qui ont été sues à son sujet, est-ce que ça peut jouer un rôle ?
Mais oui, absolument. Et les femmes sont en majorité démocrates aux États-Unis. Et là, ce qu'on observe, donc c'était la suite de ma démonstration, donc il a une base qui est solide, mais relativement faible, en tout cas, non, pas relativement faible, je vais pas dire ça, mais clairement en dessous de 50%. Et de l'autre côté, côté démocrate, il y a une énorme mobilisation. Et ce qu'on a vu dans les midterms, les élections de mi-mandat de novembre dernier, donc il y a quelques mois, c'est que les démocrates, et notamment les femmes, se sont déplacées en masse pour voter démocrate. Il y a eu 61 millions de votants démocrates en novembre. Aux élections de mi-mandat précédentes, donc 4 ans auparavant, il y a toujours une participation assez faible aux élections de mi-mandat, il n'était que 32 millions. Donc, une augmentation énorme. Et je pense qu'en 2020, je conclus, en 2020, je pense que les démocrates vont se déplacer pour voter, mais en masse, très fortement mobilisés, à la limite, quel que soit le candidat.
Ce qui donne ce sondage, dernier sondage de Fox News, la chaîne de télévision pourtant favorable à Donald Trump, qui laissait entendre que Donald Trump était derrière 5 candidats démocrates dans la course à la Maison Blanche. Chez les démocrates, c'est Joe Biden hein, qui, pour l'instant, semble avoir les faveurs des sondages. Alors certes, il est expérimenté, Joe Biden, il a été vice-président de Barack Obama. Ça dit, il n'est pas tout jeune. Est-ce que c'est pas un handicap, ça, par exemple?
Ah bah, il y a beaucoup de candidats pas très jeunes hein, dans cette élection, puisqu'il y a lui, il y a Elizabeth Warren qui va avoir 70 ans. Le président lui-même n'est pas tout jeune. Est-ce que c'est un problème? Je ne suis pas sûre. Je pense que le problème de Biden, c'est plutôt que il a une grande facilité à faire des gaffes, à dire un peu n'importe quoi dans une interview. Et je pense que quand les choses vont devenir sérieuses, les médias vont se faire une joie de ressortir tout ce qu'il a pu dire dans les 40 années passées, et notamment il y a très longtemps dans les années 70, où il pouvait dire des choses qui à l'époque étaient acceptables et qui ne, notamment sur les vis-à-vis
sur les
de
femmes,
et qui aujourd'hui ne le sont plus du tout. Et donc je me demande si Joe Biden, quand les choses vont devenir sérieuses, ne va pas s'écrouler dans les sondages. Mais nous verrons.
Un mot sur l'autre, le sénateur indépendant Bernie Sanders, le plus à gauche hein, des candidats, lui aussi devant Donald Trump dans les sondages Fox News. Ce sera un feu de paille ou il a une chance d'y aller?
Il avait beaucoup de chance en 2016. Il avait un fan club. Oui, de manière pas forcément très 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 nette d'ailleurs. Le problème de Sanders aujourd'hui, c'est qu'en fait, il ressort ses idées de 2016, qui avaient beaucoup plu, qui vont plaire encore, mais il risque de se faire doubler par Elizabeth Warren, qui est un peu sur le même credo socialiste, entre guillemets, dans le contexte américain, et qui, elle, a des idées beaucoup plus neuves, parce qu'elle les a travaillées ces derniers mois, et on voit dans certains sondages qu'elle remonte par rapport à Sanders, elle est sur le même créneau en réalité.
Laurence Nardon, invitée de la matinale, je rappelle que vous êtes directrice du programme Amérique du Nord de l'IFRI. Un mot sur le Parti républicain. Y a-t-il un front de révolte parmi les républicains qui en auraient peut-être soupé de la brutalité et des mensonges de Donald Trump?
Alors, je pense que aujourd'hui, les frondeurs du Parti républicain se comptent sur les doigts des deux mains. En fait, Trump a kidnappé le Parti républicain en 2016 pendant la campagne des primaires républicaines et exerce une sorte de domination. Je pense que les républicains n'aiment pas Trump, il n'est pas du tout comme eux, il leur impose des idées qui ne sont pas les leurs. Notamment, on en a parlé tout à l'heure sur le déficit budgétaire, parce que les républicains sont pour une très stricte orthodoxie budgétaire en général.
Keynes, ce n'est pas leur tasse de thé. Hein.
Voilà. Et puis en plus, les conservateurs sont des gens quand même très moraux et très stricts, et donc le personnage de Trump ne leur convient pas du tout. Et néanmoins, il les fait taire. Enfin, il y a une certaine couardise et une certaine subjugation vis-à-vis de Trump dans le Parti républicain aujourd'hui.
Alors, il y a tout de même un élu républicain qui a réclamé il y a un mois la procédure d'impeachment. Cela dit, Donald Trump semble être à l'abri de tout empêchement parce qu'il a la majorité au Congrès, au Sénat.
D'une véritable destitution, puisqu'il faudrait qu'elle soit votée par le Sénat, qui est à majorité républicaine.
Même s'il a perdu un peu de la Chambre des représentants, le Sénat fera office de
oui, absolument, parce qu'en fait, dans une procédure d'impeachment, la Chambre, aujourd'hui démocrate, vote la procédure d'enquête ou d'accusation, et ensuite c'est le Sénat qui vote oui ou non la condamnation. Mais il n'est pas forcément à l'abri du déclenchement d'une telle procédure, parce que les démocrates, en fait, parmi les mille questions d'idéologie et de tactique que se posent les démocrates aujourd'hui, il y a celle de savoir s'ils doivent ou non jouer la carte de l'impeachment. C'est-à-dire que ce qui les mettrait dans une situation, leur donnerait une image un peu obstructionniste, et peut-être que c'est plus intelligent de vouloir être constructeur, construire un programme pour le pays. Il se pose aujourd'hui cette question.
Eh bien, merci d'être venu ce matin en parler sur France Inter. Laurence Nardon, donc directrice du programme Amérique du Nord de l'IFRI, l'Institut français des relations internationales. Merci beaucoup et bonne journée.